Complètement à l'Ouest, l'émission qui parle de tout sauf d'immobilier. Présentée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Eh bien bonjour et bienvenue dans cette 56e émission de Complètement à l'Ouest. Alors, elles occupent nos vies, nos esprits, nos jours, nos nuits, impossible de s'en défaire, impossible de les ignorer, tant elles font partie de nous-mêmes, tant elles sont imbriquées dans notre esprit, dans notre conscience, au point que parfois elles nous obsèdent. En tout cas, elles structurent nos vies. Sans elles, nous serions sans contenu, sans substance, sans conscience. D'ailleurs, les expressions populaires sont là pour nous rappeler qu'elles font partie de notre existence partout, tout le temps. Mais qui sont-elles, ces drôles de créatures qui peuplent nos esprits au point de nous rapprocher d'autres de nos congénères ou parfois de nous déchirer parce qu'elles sèment la zizanie? Si je vous dis avoir l'idée de génie ou ne pas avoir la moindre idée sur quelque chose ou enfin avoir une idée fixe, vous l'avez deviné, nous allons aujourd'hui parler d'idées. Quelle drôle d'idée, me direz-vous, et vous aurez raison, sauf que notre invité a une très haute idée de la matière qui est la sienne, et il a bien raison, puisque c'est de philosophie, j'allais dire d'idéologie, au bon sens du terme, dont nous allons parler tout au long de cette émission. C'est parti, droit devant, larguons les amarres et cap à l'Ouest, complètement à l'Ouest.
Complètement à l'Ouest, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour Roger Paul Droit.
Bonjour.
Et bienvenue pour la troisième fois au micro de Complètement à l'Ouest, le proverbe « jamais 203 » se vérifie donc au micro pour cette émission consacrée, on l'a tous compris, aux idées, et cela suite bien sûr à la parution de votre roman philosophique au pays, Alice au pays des idées, paru chez Albin Michel. Je précisais à l'instant que c'est la troisième fois que vous vous asseyez à mes côtés, j'en suis très honoré, merci à nouveau votre fidélité. La première fois c'était avec Monique Atlan pour l'ouvrage que vous aviez tous deux écrit consacré au sens des limites. C'était en 2021 et puis en 2022, vous aviez pris place dans ce studio aux côtés du professeur de neurologie, votre ami Yves Agide, puisque vous aviez co-signé « Je marche, donc je pense ». Alors, dois-je encore vous présenter, Roger Paul Droit, tellement nos auditeurs sont habitués à votre voix. Pour cela, je dirais simplement que vous êtes philosophe et écrivain, ça on le savait déjà, d'autant qu'on peut lire vos chroniques tous les vendredis dans les pages Livres du Monde. Et puis, je ne vais pas ici me lancer dans votre bibliographie, dans la liste de vos ouvrages sur la philosophie est longue. Si je n'avais qu'une heure à vivre, sans expérience de philosophie quotidienne, une brève histoire de la philosophie, ou encore la philosophie ne fait pas le bonheur, bref, votre bibliographie est immense. À nouveau, un grand et sincère merci et bienvenue, monsieur le philosophe. Alors, Roger Paul Droit, vous le savez, puisque vous êtes habitué à ce micro, nous commençons systématiquement nos émissions par un court extrait sonore, histoire de se mettre sur le bon pied, se mettre dans l'ambiance, et là, nous allons nous immerger, pour ne pas dire plonger, en plein dans notre sujet. On l'écoute.
Je n'aurais pas songé à donner une fête dans un endroit pareil. Tu sais, Dina, je pense que nous ne devrions pas faire ça. Ce n'est pas correct. Après tout, personne ne m'a invité. Et la curiosité est un défaut qui attire des ennuis. Quand je tomberai dans l'escalier, ça me sera tout à fait égal. Je vais ressortir où les gens marchent la tête en bas et les pieds en l'air.
Alors bien sûr, on a tous reconnu cette petite voix fluette de cette jeune fille qui dit qu'elle va ressortir dans un drôle d'endroit où les gens marchent la tête en bas et les pieds en l'air. Il s'agissait bien sûr du dessin animé original de Disney, Alice au Pays des Merveilles, tiré bien sûr du livre de Lewis Carroll. Et la séquence au cours de laquelle Alice s'introduit au fond, dans le fond de son jardin, dans un terrier, et fait une chute dans un très long tunnel à tel point qu'elle dit qu'elle ne doit plus être très loin du centre de la Terre. Alors, Roger Paul Droit, votre livre Alice au pays des idées dont il est question dans notre émission de ce jour, est-ce ce pays, comme le dit Alice dans cet extrait, un endroit où les gens marchent la tête en bas et les pieds en l'air ?
Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est l'inverse, que au pays des idées, quand elles sont cohérentes, quand elles sont bien construites, quand elles sont solides, eh bien, on marche les pieds en bas et la tête en haut, alors que c'est dans les préjugés, les fausses opinions, les idées mal fichues, si j'ose dire, que on voit tout à l'envers. Mon héroïne, Alice, elle ressemble un peu à celle de Lewis Carroll. Elle est dans un même univers un peu insolite, mais c'est une jeune fille d'aujourd'hui. Ça n'est plus une petite fille du 19e siècle. Jeune fille d'aujourd'hui, elle a peur de l'état de la planète, elle craint pour la biodiversité, elle s'inquiète de la violence qui monte et des guerres qui couvent, et surtout, elle s'inquiète comme jeune femme de ce que sera son propre avenir, comme celui de des siens et de tous. Et elle rêve de se faire inscrire, tatouer sur l'avant-bras une phrase qui lui serve de boussole et qui la guide. Et si elle s'appelle Alice, c'est bien sûr à cause de Lewis Carroll, parce que sa mère en est fan, lui lisait Alice au Pays des Merveilles quand elle était petite, et elle a pris l'habitude, quand elle était enfant, d'aller au bout du jardin voir s'il n'y avait pas le fameux terrier qui mène non seulement au centre de la Terre, mais au Pays des Merveilles. Il n'y était jamais. Un matin plus grande, dans le début du livre, eh bien elle y va, et là il y a un immense terrier, elle se retrouve non pas au Pays des Merveilles, mais à celui des idées, où j'ai décidé que vivaient tous les sages, tous les philosophes, tous les penseurs, tous les savants de tous les temps, de toutes les langues, de toutes les civilisations, ils coexistent là, et elle va partir à la recherche de la fameuse phrase qui pourrait lui servir de guide.
Alors, pourquoi est-ce qu'elle part à la recherche de cette phrase cathartique quelque part ? Qu'est-ce qu'elle veut trouver ? Elle veut trouver une manière, c'est un peu le sous-titre de votre livre, comment mieux vivre ?
Elle se demande. Que faire ? Elle se demande, si vous voulez, où est la bonne direction ? Elle est perdue, comme finalement beaucoup de nos contemporains. Nous sommes dans une époque, je crois, de désorientation, d'inquiétude, où on y voit plus clair. On ne sait pas très bien dans quelle direction aller, à quelle ligne, qu'elle soit politique, religieuse, spirituelle, philosophique, à quelle ligne se vouer. Et c'est ça que cherche Alice. C'est un point fixe, un repère. Et puis elle va découvrir, vous parliez des idées, elle va découvrir la puissance et la diversité des idées. Elle va découvrir que la vie que nous menons au jour le jour, elle est guidée, elle est contrôlée d'une certaine manière par les idées que nous avons, qui sont venues de notre éducation, de notre milieu, notre environnement, notre histoire, et de tout ce qui nous entoure, qui se sont déposées, mais qu'on n'a peut-être jamais vraiment regardées, examinées. Et le plus vieux geste de la philosophie, le geste de Socrate, ce qui me paraît, si vous voulez, le point de départ, le béaba de toute démarche philosophique, c'est de commencer à examiner ses idées. Regarder ce qu'on a dans la tête. Au lieu de croire que c'est simple, que c'est normal, qu'il n'y a rien à dire. Regarder et se demander comment c'est fait, de quoi c'est construit, est-ce que ça tient la route. Essayer de faire subir ce que nous appellerions aujourd'hui des crash tests, si vous voulez, à nos idées, au lieu de les croire spontanément bonnes et valides. Et là, il y a quelque chose qui est décisif, parce que si vous agissez avec ce que vous avez en tête sans réfléchir autrement et sans examiner, eh bien, vous êtes en pilotage automatique, si j'ose dire. Vous êtes sur une sorte de GPS de l'existence. Alors que si vous regardez, que si vous testez, Alors vous pouvez peut-être changer d'idée, vous apercevoir qu'il y en a qui vont pas tenir, et là, vous changez aussi vos manières d'agir et vos manières de décider.
Alors c'est 450 pages pendant lesquelles je me suis vraiment régalé, puisqu'en fait on fait la connaissance de Marc Aurèle, on fait la connaissance de Marx, de Freud, d'Aristote, de Montaigne, de Rousseau et beaucoup d'autres. Et puis il y a en effet, vous le disiez, cette phrase catharsique qu'elle recherche. Et à la fin de chacun des chapitres, et là encore une fois, chacune des phrases en fin de chapitre pourrait être tatouée sur un avant-bras. Il y a en effet à la fin de chaque chapitre ces phrases. J'ai personnellement retenu quelques-unes d'entre elles. Marc Aurèle, il ne faut pas en vouloir aux événements. Marc Aurèle, l'empereur philosophe stoïcien. Il y a cette autre également que j'aime bien car très poétique. Marche avec des sandales jusqu'à ce que la sagesse te procure. C'est Avicenne qui dit ça. Oui. Hein. Jusqu'à ce que la sagesse te procure des sandales.
Ou non, encore, des souliers. Marche avec des sandales jusqu'à ce que la sagesse te procure des souliers.
D'Avicenne, hein, c'est bien ça. Avicenne, et puis oui. Karl Marx, très concrète, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières. Ce qui importe, c'est de transformer. Quel est le bon usage de votre livre qui balaie très large des philosophes de la Grèce antique en passant par l'Asie avec Bouddha jusqu'aux penseurs des Lumières ou du début du XXe siècle? Dit autrement, comment un lecteur qui lirait votre livre pourrait-il transformer son réel de tous les jours? C'est la première question. Et la deuxième question, votre livre parle d'idées. Comment est-ce que vous différenciez idées et idéologie au sens historique? Il me semble que c'est un terme qui a été forgé au XVIIIe siècle en tant que science des idées.
Alors, j'ai essayé de répondre
de façon
concise et aussi claire que possible à chacune de ces questions. Qu'est-ce qu'un lecteur pourrait transformer de sa réalité quotidienne avec ce livre? Eh bien, d'abord, la réponse dépend de chacun. Ça n'est pas à moi de dicter l'existence des uns ou des autres. Mais ce que j'ai voulu faire, c'est plutôt montrer à travers l'évolution de cette jeune fille, parce qu'au début, elle est inquiète. Ensuite, elle est assez longtemps un peu déconcertée en découvrant la diversité des idées, en découvrant l'opposition des perspectives. Elle dit à un moment qu'elle a l'impression d'avoir la tête comme un tambour de lave-linge, si vous voulez, parce qu'elle découvre beaucoup de choses et elle s'aperçoit aussi que cette phrase qu'elle cherchait pour la guider, eh bien, il y a des phrases opposées. Il n'y a pas qu'une seule phrase possible. Elle comprend au bout d'un moment qu'en fonction des circonstances, des situations, des sujets, des moments, peut-être même des tempéraments, des individus, les phrases sont multiples, que c'est un piano, un catalogue de pensées différentes dont nous avons à jouer et pas une seule qui serait éternellement tatouée sur notre peau. Et donc elle découvre tout cela, mais elle découvre aussi que plutôt qu'une manière de vivre qui serait en quelque sorte un mode d'emploi, ce qu'il faut trouver, c'est la bonne attitude. L'attitude qui va vous permettre de trouver des réponses selon les circonstances et non pas un catalogue, une liste de choses à faire. Il me semble que si on vous explique ce que vous devez manger au petit déjeuner, faire comme mouvement de gym, etc., on a des conseils effectivement de bon sens parfois ou très utiles, mais ça ne dit pas comment vivre au sens de quelle est l'attitude avec laquelle on doit aborder les questions de la vie pour trouver, selon les circonstances, toutes sortes de réponses. Et donc, à votre question, je répondrai que c'est cela que j'ai voulu essayer de donner au lecteur dans un livre qui est un peu un livre de transmission que j'ai écrit pour mes petits-enfants, que j'ai écrit après une vie de fréquentation des philosophes et d'études, mais en même temps de façon un peu comique par moment. Enfin, il n'y a pas de raison de s'ennuyer même
bien
quand
sûr.
Les questions sont graves.
Et on ne s'ennuie pas d'ailleurs.
Voilà, même quand les questions sont graves, je crois qu'il y a un peu de loufoquerie ne fait pas le mal. Faut elle est à l'ouest.
Complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, l'ami Alice, oui. Et en même temps, elle, en discutant avec tous, eh bien, elle découvre non pas un mode d'emploi de la vie, mais le fait que la bonne attitude est une attitude à la fois de vigilance, de confiance, et c'est probablement autour de cela que, il me semble, chaque lecteur pourra, j'espère, trouver sa propre voie. Je n'aime pas prescrire, et je ne suis pas un philosophe qui dicte une vérité qu'il faudrait appliquer. Voilà.
L'autre question, dernière question, sur les idées et idéologies.
Alors, eh bien, idéologie, c'est un terme qui a été en fait forgé à la fin du XVIIIe siècle par un philosophe français qui s'appelait Destutt de Tracy. C'est l'étude des idées, mot à mot, et c'est devenu ensuite, évidemment, un système d'idées coercitives. Je crois que ce qui est négatif dans l'idéologie, c'est qu'elle se prend pour une vérité absolue qui va tout permettre. Dans idéologie, il y a le début du fanatisme, d'une certaine manière, ou la crispation de la pensée et de l'aveuglement. Je ne crois pas que toutes les idées soient nocives, au contraire, beaucoup sont constructives, et c'est comme partout, enfin je veux dire, il y a des idées noires et des idées blanches, si j'ose dire, il y a des idées positive, constructrice, vivante ou vitale, et d'autres qui sont destructrices et mortifères. Mais l'attitude qui est la pire, c'est celle de croire que l'on détient une vérité absolue qui permet tout. Que ce soit la vérité de la suprématie de la race aryenne avec les nazis, que ce soit la vérité de l'absolu du djihad avec Daesh et les islamistes radicaux, que ce soit l'idée du communisme avec Staline et la révolution bolchevique. Il y a à chaque fois dans ces idéologies qui sont en même temps des dictatures de vérité absolue, quelque chose qui est la permission, au nom du vrai, de tuer, de massacrer, de dominer, en étant en plus héroïque et vertueux. Et ça, évidemment, c'est la pire des choses que la réflexion doit combattre.
Alors, il faut bien avouer que les philosophes que le lecteur fréquente, grâce à Alice, sont presque exclusivement masculins. Rousseau, Aristote, Platon, Voltaire, Machiavel, Marx. Si j'ai bien lu, il y a deux femmes philosophes, outre Alice elle-même, bien sûr, qui sont citées et que l'on apprend à connaître. Il y a d'une part Louise Dupin. Nous sommes au siècle des Lumières, en 1746, dans le château de Chenonceau. Et cette Louise Dupin plaide déjà pour l'égalité homme-femme, et d'autre part, en 415 avant notre ère, Hypatie, mais qui finit mal puisqu'elle est assassinée. Je vous taquine un peu, mais pourquoi ne pas avoir fait parler plus d'autres femmes philosophes? Je pense à Olympe de Gouges, je pense à Simone Veil. Vous allez me dire qu'il faut faire des choix, certes.
Oui, non, mais il est vrai que la domination masculine dans l'histoire de la philosophie est tout à fait écrasante. Il y a eu, évidemment, même dans l'Antiquité, des femmes philosophes, plus nombreuses que celles que je cite, c'est exact aussi. Et pour me défendre, je vous ferai remarquer qu'il y a quand même aussi, dans le livre, il est question de Simone de Beauvoir, il est question d'Anna Arendt, et il est question surtout de la prise de pouvoir, si j'ose dire, féminine sur la philosophie aujourd'hui. Depuis le XVIIIe siècle, la part des femmes dans la pensée est devenue de plus en plus importante, et aujourd'hui, je crois que le corps des professeurs de philosophie est majoritairement occupé par des femmes. Mais je me défendrai encore un petit peu mieux, j'espère, mon héroïne est justement une jeune fille, qu'elle est guidée par une fée, qui est la fée Objection, qui lui explique comment finalement les objections donnant le contraire d'une idée nourrissent les idées au lieu de les détruire. Elle est guidée dans le pays des idées par la Reine Blanche.
Oui.
Vous voyez, et donc elle est entourée de présence féminine, mais elle comprend aussi, et surtout, et c'est aussi un des thèmes du livre, que l'avenir de la pensée, probablement de la société, comme de l'économie et de l'ensemble de notre univers, appartient plus aujourd'hui aux femmes qu'aux hommes. Donc c'est loin d'être un livre non féministe.
N'oubliez pas les deux souris facétieuses également.
Absolument, qui sont des sœurs jumelles. Donc il y a, si vous voulez, une série de présence féminine et même un horizon, je l'espère, féminin dans ce livre, même si, parce que telle est l'histoire de la pensée, la plupart des protagonistes sont masculins.
Alors, votre héroïne, la jeune Alice, quand on lit vos pages, a un certain trouble lorsqu'elle rencontre le philosophe Jean-Jacques Rousseau. D'où vient ce trouble ? Qu'est-ce qu'elle lui trouve de si attrayant d'un point de vue des idées pour éprouver ce trouble manifeste ? En tout cas, c'est la manière dont je l'ai compris en lisant le passage en question.
Elle tombe amoureuse de Jean-Jacques.
Elle l'embrasse sur la bouche à un moment donné.
Oui, c'est ça, oui. Alors, c'est une fête. Parce que j'essaye, si vous voulez, d'incarner, tout en laissant tous les détails historiques exacts, et évidemment toutes les citations, les doctrines, etc., mais d'incarner de façon romanesque les scènes et les moments. C'est une fête à Chenonceau. Louise Dupin, femme d'un fermier général, vit entre l'hôtel Lambert à Paris, qui est quand même un des plus beaux hôtels de Paris, et puis le château de Chenonceau comme résidence secondaire, excusez du peu, et elle invite à sa table et à son salon Voltaire, Rousseau, Montesquieu, l'abbé de Saint-Pierre et d'innombrables Fontenelle, d'innombrables penseurs des Lumières. Elle-même, vous l'avez rappelé, est l'autrice d'un livre sur l'égalité. Et elle a, à cette époque, Jean-Jacques Rousseau pour secrétaire particulier, qui lui va faire les recherches dans les archives de ce livre sur l'histoire des femmes que écrit Louise Dupin, qui a été réédité, redécouvert récemment, parce que toutes les manuscrits étaient dispersés dans les archives du monde. Donc c'est une sorte de comeback de cet auteur par-delà les siècles. C'était aussi la grand-mère de George Sand. Et dans ce château de Chenonceau, j'imagine que se rencontrent, pour une fois, parce qu'on n'est pas sûr qu'ils se soient jamais rencontrés dans la réalité, Voltaire, avec qui elle parle, alors Voltaire qui lui fait...
Elle a moins d'attrait pour Voltaire, quand même.
Ben, parce que, pour quelle raison elle a, Alice, elle a plutôt une fibre écologique, ouais. Elle est plutôt... alors, elle a une formule qui résume un peu sa position après avoir parlé avec l'un et l'autre. Elle dit Voltaire, glyphosate, Rousseau, permaculture. Voilà, c'est un peu contemporain. Mais c'est à peu près ça qu'elle retient. Voltaire, il fait l'éloge du confort, de l'argent, de la mondialisation, du commerce international, de l'industrie et du progrès. Et je pense qu'il n'a pas tort. Mais il ne voit pas les aspects négatifs que Rousseau voit. Et puis, elle est prise dans ce bal, elle boit un peu de champagne, elle est encore jeune, elle danse, elle a la tête qui lui tourne, et voilà un Voltaire, un Rousseau qui non seulement a une jolie figure, mais lui tient le discours qu'elle a envie d'entendre. Le progrès technique a aussi des revers, les inégalités sociales sont une injustice, c'est ce que l'histoire a mis en place, l'histoire pourrait bien le défaire. Et puis surtout, il continue de la charmer en lui jouant du clavecin. C'est un compositeur, c'est d'abord un musicien, on l'oublie, Rousseau, qui est venu à Paris réellement pour présenter à l'Académie des sciences une nouvelle méthode de notation musicale. Il a été professeur de clavecin. Voilà, et donc elle danse avec ce jeune philosophe qui lui tient un discours qui l'a séduit intellectuellement et politiquement, et puis qui a une tournure de
quelques atouts,
et voilà, et elle pose sur la bouche de Jean-Jacques un baiser fougueux, mais elle va va vite découvrir que les résidents du pays des idées n'ont pas le droit d'avoir des relations amoureuses avec les visiteurs.
Allez, on va marquer une courte pause musicale avec ce morceau de circonstance. Il s'agit un brin loufoque, un brin barré, et j'adore, si j'ose dire. On est en plein dans Complètement à l'Ouest. Il s'agit de Nino Ferrer, Madame Robert. C'est un titre de 1966. Pourquoi avoir choisi ce titre, Roger Paul?
Bah, vous allez le comprendre en l'écoutant, c'est parce que il est, à mon avis, particulièrement loufoque au sens d'un humour qui est pas très français, qui est plutôt nonsensical, enfin un humour britannique. Et moi, j'adore ça. Et puis c'est une chanson méconnue de Nino Ferrer.
Allez, on l'écoute, Madame Robert.
Mon père est un homme de bien. Il possède des magasins d'objets noirs et de choses carrées. Il est sujet aux rhumes en été. Le dimanche, avec ses amis, il fait des parties de rami. Ils boivent le vermouth et la bière en parlant de Madame Robert. Et moi, je suis l'offre Jojo, le bois sans soif, le téméraire. Je fréquente heureux pour mon frère, car s'il les aimait, il en mangerait. Il ne peut pas les supporter. Il est de nature studieuse, opiniâtre et méticuleuse, mais il ne s'intéresse guère au cas de Madame Robert. Et moi, je suis l'offre Jojo, préposé au cheveux.
De retour avec le philosophe Roger Paul Droit qui publie un roman philosophique, Alice au pays des idées, et c'est paru chez Albin Michel. Votre livre, Alice au pays des idées, nous fait voyager dans le temps et dans l'espace. Si on démarre au point le plus proche de nous, au début du XXe siècle en Prusse, il y a Nietzsche. Vous écrivez, il rêve de faire imploser tout le pays des idées. Il y a aussi Freud, il y a Marx. Au XIXe siècle, toujours en Prusse, il y a Kant, il y a Hegel. Au XVIIIe siècle, cette fois plutôt en France, même si l'Angleterre est à citer, bien sûr, Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Au XVIIe siècle, en Europe, France, Pays-Bas, Pascal et Spinoza. Au XVe siècle, en Italie et en France, la Renaissance, Machiavel, Montaigne et d'autres. Avant cela, en Inde, en Chine, sans oublier la Grèce antique. Comment est-ce qu'on peut expliquer le point de chute géographique de ces idées? Dit autrement, comment expliquer que soudainement, à une époque donnée, il puisse y avoir dans un pays ou dans une région un foyer intellectuel qui émerge au point de faire apparaître des monstres de la philosophie qui éclairent la pensée?
Je ne sais pas, franchement, parce que si j'avais une réponse à cette vaste question de savoir pourquoi éclose à un moment donné, à un lieu, dans un lieu donné, une période, tel ou tel type d'école, de pensée, je suppose que si j'avais la réponse exacte, j'aurais découvert quelque chose d'extraordinaire que personne ne connaît.
Pierre philosophal, peut-être.
Voilà, bon, c'est Hegel qui a inventé l'idée d'un esprit d'une époque, du Geist, comme il dit en allemand, c'est-à-dire de l'esprit d'une culture, d'une civilisation, d'un moment de l'histoire, avec cette idée propre à Hegel que l'esprit finalement va de lieu en lieu, passe par exemple de la Grèce à Rome, de telle culture à telle autre, et que effectivement on a tout à fait bien le sentiment qu'il y a des peuples, des périodes, des carrefours, des lieux de pensée, des centres de réflexion qui émergent soudain. Mais le pourquoi, je crois qu'il y a une Alors, il y aurait deux réponses possibles. Il y a une sorte de vie des idées autonome dans un ciel intemporel qui ferait qu'il y a une vie des idées à part de la vie économique, de la vie réelle, de la vie... bon, et puis il y a l'interprétation tout à fait inverse qui dit que la vie des idées n'est que le reflet du travail réel, c'est Marx, des luttes économiques, de la production du monde matériel. Il me semble que les choses sont encore plus complexes dans leur réalité que chacune de ces deux versions. Non, il n'y a pas un monde des idées séparé de la manière dont vit une société, dont vivent des êtres humains, des gens dont ils travaillent, dont ils mangent, dont ils se transportent. C'est lié. Et d'un autre côté, on ne peut pas dire que il y a aucune influence, si vous voulez, des idées sur le sur l'histoire. Quant à votre question du alors le pourquoi de l'émergence, on la constate. On peut avoir des éclaircissements sur tel ou tel point particulier, mais à ma connaissance, il n'y a pas de réponse, en tout cas je n'en ai pas, au pourquoi c'est ainsi.
Dans votre livre, il y a donc Alice rencontre, on le disait, de très nombreux philosophes. Dans le désordre, il y a Montaigne qui lui fait cette confidence: la vie n'a pas besoin de mode d'emploi et qu'il faut nous aimer tels que nous sommes. Il y a Bouddha qui lui précise que le vrai bonheur, c'est quand tout tourne rond. Aristote dans l'Éthique à Nicomaque qui lui fait cette confidence, là encore: sans amis, personne ne choisirait de vivre. Ou encore Voltaire, dont on parlait tout à l'instant, Le paradis terrestre et Où je suis. Laquelle de ces phrases vous faites tatouer, Roger Paul?
Alors, je vous répondrai d'abord que je ne m'en ferai tatouer aucune, parce que j'ai compris, comme Alice d'ailleurs à la fin du livre, que rien ne doit être d'une certaine manière gravé dans le marbre de manière fixe et impossible à défaire. Probablement, si je devais en choisir une parmi beaucoup, c'est pas une phrase de philosophe, c'est une phrase de la Bible, mais qui est à la fin de ce livre et qui tient une place importante, c'est « Tu choisiras la vie ». Tu choisiras la vie, c'est à mon avis, si vous voulez, et le texte du Deutéronome dit même « Tu choisiras la vie pour vivre ». Comme si vous voulez, il y avait la règle général, et puis le pour vivre au jour le jour, au cas par cas, avec la manière d'essayer de trouver la solution à partir de cette règle générale. Tu choisiras la vie, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça a l'air d'un conseil presque qui n'en est pas un, voilà. On a tous toujours choisi la vie, ou on est dedans sans l'avoir choisi. Non, tu choisiras la vie signifie, il y a toujours finalement, dans une situation, une pensée, un problème quelconque, une philosophie, une idéologie, il y a toujours un aspect constructeur possible et un aspect négatif. Et tu choisiras la vie, c'est tu refuses ce qui est mortifère, destructeur du réel, de l'humain, des relations entre les gens. Et cette positivité, là, je crois que c'est la règle fondamentale, c'est-à-dire, après, il peut être très difficile de discerner dans chaque situation, dans chaque crise, dans chaque problème qui se pose, quel est le versant qui défend le mieux la vie. Mais la règle globale, elle est claire et elle me semble la plus utile.
Toute dernière question, puisque le temps file à une vitesse incroyable. Dans le dernier chapitre de votre livre, a pour titre « Où sont passés les sages ?» En ce début du XXIe siècle, si on regarde vers l'avenir, la question que je vous pose, Roger Paul, où sont passés les philosophes? Et surtout, est-ce qu'on a encore besoin de philosophes alors que l'intelligence artificielle va de plus en plus nous assister dans presque toutes nos tâches?
Alors, j'ai envie de dire que oui, on en a besoin de plus en plus, justement à cause de l'existence de l'intelligence artificielle, parce que elle nous aide. Je n'ai rien contre l'intelligence artificielle, faut pas la diaboliser, je crois que c'est trop simple, pas plus qu'il ne faut diaboliser aucune technologie, mais les immenses services qu'elle peut rendre sont des services, par exemple en médecine, de diagnostic ou de traitement des données. Mais les décisions finale. Elles dépendent et doivent continuer à dépendre de la réflexion des êtres humains. Je prends cet exemple parce qu'il est très simple et il peut tenir en peu de phrases. Diagnostic d'un cancer, il sera mieux fait par l'IA, tout simplement parce qu'il y a des milliards de data qui sont consultables et qui vont donner une précision, une fiabilité du diagnostic extrêmement forte. Est-ce qu'il faut opérer ou pas opérer ? Ça dépend à ce moment-là de tout à fait autre chose, qui sont l'état de la personne, ses relations, sa famille, sa situation personnelle, ses croyances, son histoire. Et ces données-là ne sont pas, à mon avis, traitables par l'IA pour prendre une décision. C'est une décision humaine entre chirurgien, patient, famille, enfin bon. Voilà, et là... ça peut s'étendre à des tas de choses. Nous avons beaucoup d'avantages avec les applications de l'IA. Nous risquons l'inconvénient de ce que j'appelle une existence sous GPS, vous voyez, où on nous dirait instant par instant ce que nous devons manger, ce que nous devons acheter, ce que nous devons choisir, où nous devons aller, comment nous allons nous habiller. Ce qui est une vie qui, à ce moment-là, serait absolument sans... hasard, sans réflexion, peut-être beaucoup plus confortable sous des tas d'aspects que la nôtre, mais je crois beaucoup moins humaine et je crois plus à l'adversité, au hasard, à l'affrontement du négatif et au choix de l'incertitude où nous sommes que à l'empire de l'IA.
Une vie algorithmique.
Exactement.
Merci beaucoup.
Merci
Roger
à
Paul
vous.
Droit.
Merci à vous, Philippe Boyer.
Merci pour cette, pour avoir accepté pour la troisième fois de venir à ce micro pour cette 55e émission de Complètement à l'Ouest. Alors jamais 304, évidemment. Comme dit l'adage, un brin pimpé, un brin modifié. Je rappelle, Roger Paul, que vous avez écrit Alice au pays des idées. C'est paru chez Albin Michel. Il s'agit d'un roman, mais en fait, c'est une fable philosophique. C'est un roman philosophique. Et à ce titre, on est vraiment, en tout cas moi je l'ai été, happé par cette histoire, par ces personnages que vous rappeliez tout à l'heure, à la fois bien sûr Alice, mais également tous ceux qui sont à son chevet pour l'accompagner sur ce chemin philosophique. C'est vraiment enthousiasmant et je vous le conseille très fortement pour qui se pose des questions, notamment sur le sens de la vie, mais pas que. Complètement à l'Ouest poursuit sa route et son cap et reviendra le mois prochain pour une nouvelle émission. Ce sera la 56e du genre et toute avant-dernière de cette sixième saison. Comme à mon habitude, j'adresse mes remerciements, ils le savent, je les vois derrière la vitre, mes remerciements à toute l'équipe technique qui œuvre en régie, sans qui, eh bien, l'enregistrement, la diffusion de Complètement à l'Ouest ne serait évidemment pas du tout possible. Merci beaucoup les gars en régie. Et puis bien sûr, je le rappelle, et c'est à chaque fois vrai, que cet épisode ainsi que tous les autres peuvent être réécoutés en podcast, autrement dit en balado-diffusion, sur les principaux players en ligne, bien sûr aussi sur le site de Radio Imo, mais aussi sur Spotify, Apple Podcast et beaucoup d'autres. Chers amis auditeurs et auditrices, vous le savez, eh bien il ne me reste plus qu'à vous préciser qu'il faut plus que jamais garder le cap, cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, une émission à réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.